pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
VHSS.
VHSS, c'est violence et harcèlement sexiste et sexuel. L'écrasante majorité des violences et harcèlements sexistes et sexuels sont exercés par des hommes. Point. 99% des personnes condamnées pour des VHSS, et je dis bien condamnées, ça veut dire qu'il y a eu plainte avant, ce qui n'est pas la majorité des cas de VHSS, 99% des personnes condamnées sont des hommes, et 87% des victimes sont des femmes. Une femme sur 6 âgée de 18 à 74 ans déclare avoir subi au moins une fois depuis l'âge de 15 ans une violence sexuelle. Donc, c'est viol, tentative de viol ou agression sexuelle de la part d'un non-partenaire, mais il y a aussi beaucoup de violence dans les couples, dans les jeunes couples.
Salut les amis et bienvenue à vous dans le troisième épisode de notre série sur les VHSS, violence, harcèlement sexuel et sexiste. Oh ouais, c'est pas très fun comme sujet. Bah en fait si, puisque le but c'est de mieux faire la fête tous ensemble. C'est tellement plus chouette de rigoler ensemble. Et c'est avec grand plaisir que nous recevons à nouveau les établis. On vous a déjà beaucoup parlé de leur génial dispositif Free Paillettes. Les établis, Sylvie.
Salut, bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être de nouveau ici avec vous toutes.
Et Mélo.
Bonjour tout le monde, c'est Mélo. Et moi aussi, je suis très ravie de refaire une troisième émission avec toi aussi, JBD. Merci de nous accueillir.
Merci à vous d'être là. Alors bon, j'adopte un ton très souriant parce que voilà, on est ravis d'être ensemble. Cela dit, aujourd'hui, on va parler de choses pas très drôles. Et je n'aurai peut-être qu'une seule question à vous poser pour démarrer cette nouvelle conversation. Et je m'excuse par avance de donner l'impression de défoncer une porte ouverte sur une réalité dont je me rends compte que j'ai conscience qu'elle existe, mais que peut-être que j'ai pas si envie que ça de la regarder en face. Voici en tout cas ma question. On parle donc beaucoup de violence, harcèlement sexiste, sexuel. Et voici la porte ouverte à enfoncer. Serait-il exact de dire que l'essentiel, l'écrasante majorité des violences sexistes et sexuelles sont commises par des hommes cisgenres et que l'écrasante majorité des victimes de ces comportements sont des femmes, particulièrement des jeunes femmes? Alors, je mets quand même un point d'interrogation, mais je vous avoue que j'ai googlisé ma question. Les chiffres sont là, on tombe sur des 90-95% de violences commises par des hommes. Mais je ressens le besoin de vous poser la question parce que je vais vous faire un petit aveu. Ça m'est arrivé aussi, moi, de dire « Ouais, mais il y a aussi des meufs qui font de la merde ». Oui, mais en fait, c'est quasiment de l'ordre de l'anomalie statistique. Comme disait l'autre, les faits sont têtus, mais ils sont les faits. Et là, on va les chiffrer avec des sources policières, judiciaires, des statistiques. Et rappelons que cette série de conversations s'inscrivent dans le cadre du Festival au quart de tour, le festival absolument génial qu'on adore, organisé par Radio Béton depuis 1986, où viennent des milliers de personnes. Hélas, statistiquement, sur ces milliers de personnes, il y aura toujours des relous, ou des gens avec des mauvais comportements, même si au quart est un événement génial. Au quart de tour n'est pas hors sol ni hors société. Mélo ?
Oui, alors merci pour ton intro. Ouais, tu dis enfoncer des portes ouvertes et en même temps elles sont nécessaires à enfoncer puisque tout le monde n'a pas conscience de la réalité des VHSS. C'est une réalité dure à entendre, c'est une réalité dure à accepter et pour autant les personnes qui les vivent, elles n'ont pas le choix et c'est pour toute leur vie qu'elles en ont. Donc effectivement, comme disait Édouard Durand à la Civise, enfin quelqu'un qui a témoigné à la Civise a dit « si je l'ai vécu, vous pouvez l'entendre ». Eh bien c'est ça cette émission finalement. Pour rappel, la Civise, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Pour répondre à ta question, je pense qu'on va passer par plein de sujets, plein de types de violences et tout ça, mais le gouvernement avait fait une enquête statistique en 2020 qui recensait que 99% des personnes condamnées pour des VHSS, et je dis bien condamnées, ça veut dire qu'il y a eu plainte avant, ce qui n'est pas la majorité des cas de VHSS, 99% des personnes condamnées sont des hommes et 87% des victimes sont des femmes. Et ça, c'est le chiffre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Donc voilà, on peut effectivement corroborer ce que tu disais tout à l'heure. C'est une réalité patriarcale d'un système de domination. C'est systémique, ces violences-là, on le sait. Ça s'adresse aux femmes, ça s'adresse aux personnes minorisées, telles que les personnes LGBTQIA+, les personnes racisées, etc. Donc oui, on peut quand même parler d'une majorité écrasante, comme tu le dis, et pour autant, ça ne s'arrête pas qu'à ça.
Une donnée qu'on évoquera dans les prochains épisodes à venir avec une autre asso que vous connaissez fort bien puisque vous y avez aussi fait vos armes, Stop Harcèlement de Rue. Marilyn vous le dira dans un prochain épisode. Il n'y a pas de profil type de l'agresseur.
Le harceleur de rue est pluriel. Il n'a ni apparence, ni appartenance religieuse, ni appartenance ethnique réelle ou supposée qui ne ressorte plus qu'une autre. Affirmer le contraire est faux et relève souvent d'un biais de confirmation. Concernant le genre des personnes coupables de harcèlement ou agression dans l'espace public, des études montrent qu'il s'agit plus souvent d'un homme.
On a pu assister à des discours médiatiques tout à fait nauséabonds et très politiquement orientés. Ces reportages, on dit « Regardez, il y a des femmes à Paris qui n'osent pas aller dans certains quartiers parce que des gens pas blancs les sifflent, les machins, etc. » Or, Marilyn vous le dira dans un prochain épisode, il n'y a pas de profil type de l'agresseur et il n'est pas particulièrement musulman. Hein, il peut être très blanc. Sylvie ?
Alors effectivement, il n'y a pas de profil type, même s'il y a une majorité d'hommes. Concernant l'inceste, par exemple, ça touche 160 000 enfants par année, hein, donc c'est énorme hein, comme chiffre. Hein. Ça veut dire que dans une classe, hein, c'est 3 enfants sur 30, hein, c'est 1 enfant sur 10. Hein, donc on prend en pleine figure ce chiffre, hein, effectivement c'est violent. Qu'est-ce qui ressort dans ce type d'agression sexuelle, commise notamment sur les enfants? C'est que effectivement, la plupart du temps, je crois que c'est 90% des cas, c'est commis par un membre de la famille. Les victimes disent que c'est quelqu'un en qui elles avaient confiance. Donc c'est un père, un grand-père, un oncle, un cousin, un frère, un ami de la famille. Il y a eu un MeToo inceste qui a été lancé le 16 janvier 2021, qui a récolté 80 000 messages en 2 jours. C'était initié par les membres du collectif Nous Toutes dans le sillage de l'affaire Duhamel. L'affaire Duhamel, je reprécise, c'est Camille Kouchner qui sort un livre, La Familia Grande, et qui dénonce l'inceste que son frère jumeau a subi par son beau-père. Elle dénonce en fait les faits d'inceste commis par Olivier Duhamel, leur beau-père, sur son frère jumeau quand il était adolescent. Cette affaire, elle a fait grand bruit, puisque Olivier Duhamel, c'est une espèce de ponte intellectuelle, de gauche. Donc c'est un choc. Ce livre a été un grand choc dans toute l'intelligentsia, en fait, de gauche en France. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, voilà, effectivement, ça concerne tout le monde, en fait, les violences sexuelles et sexistes. C'est pas parce qu'on est de gauche qu'on ne commet pas de violences sexuelles et sexistes. C'est pas parce qu'on est de gauche intellectuelle, blanc, avec de très bons revenus, qu'on ne commet pas de violences sexuelles et sexistes.
Ce qui est terrible quand vous dites, et selon les statistiques, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas déclarées, donc qui n'apparaissent pas dans les radars des stats, prenons le fait d'une personne sur 10 a été sexuellement agressée dans son enfance, victime d'inceste, bah ça veut dire une personne sur 10 qui va devenir un adulte. Et vous m'avez envoyé une batterie de chiffres avant qu'on se rencontre pour cette émission. Et je prends compte en fait que j'évolue dans une société qui n'est pas exactement ce que je pense. Et c'est tellement lourd et affreux que peut-être que je n'ai pas envie de regarder ça en face.
Bah oui, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Il y a les gens qui parlent pas, effectivement, qui parlent plus tard, qui se souviennent plus tard avec l'amnésie traumatique. Voilà, sur mémoiretraumatique.org. qui est un site internet très très complet sur le traumatisme et le psychotrauma, on peut comprendre pourquoi ces personnes ne se souviennent pas et parlent pas. Mais il y a aussi des personnes qui ont parlé plus jeunes, qu'on n'a pas entendu cru, et qui après se sont tues effectivement. Donc c'est vrai que maintenant il y a des instances, beaucoup plus depuis MeToo et autres, on en reparlera après avec Sylvie, mais qui permettent de reprendre la parole ou de prendre la parole pour la première fois, des personnes qui s'aperçoivent en écoutant les témoignages des autres qui elles-mêmes sont concernées. Donc voilà, il y a aussi ces personnes, toutes ces personnes-là. Et puis il y a les personnes invisibilisées par le système patriarcal et de domination, qui vont être les personnes LGBTQIA+, qui vont être les violences dans les couples homo ou lesbiens par exemple, qui vont être aussi les personnes racisées. Là je lisais dans le livre de Lénaïgue Bredoux, MeToo, le combat continue, qu'il y a des personnes racisées en fait qui n'osent pas dénoncer les violences qu'elles subissent, hommes ou femmes, pour ne pas renforcer les clichés racistes qui existent déjà sur leur communauté. Donc les violences intracommunautaires sont très invisibilisées par le racisme ambiant, mais aussi par la non-possibilité pour ces personnes-là de prendre la parole pour ne pas déjà renforcer un cliché qui existe. Enfin, des stéréotypes et puis du racisme, en fait. Donc c'est bien d'en avoir conscience, parce qu'on pourrait croire qu'on n'écoute pas forcément, mais il y a aussi une grosse part de pression sociale qui fait que ça reste un tabou. On voit bien là avec les différents MeToo qui existent. D'ailleurs, si on peut revenir un peu sur l'histoire du MeToo, ça serait très intéressant.
Ouais, l'histoire du MeToo, elle est intéressante parce que, et ça parle aussi des invisibilisations. Il y a eu une première campagne MeToo aux États-Unis en octobre 2007 qui avait été lancée par Tarana Burke, qui était une travailleuse sociale afro-américaine qui avait créé ce MeToo pour dénoncer les violences sexuelles à l'endroit des minorités et notamment des femmes qui habitent à Harlem, à New York. Ça n'a pas du tout pris. En fait, il faut attendre 2017, le procès Weinstein, pour que le hashtag connaisse un développement international. Sa date de popularisation, elle est située en octobre 2017 par une actrice qui jouait dans la série Charmed, Alyssa Milano, qui le relance sur Facebook et qui est partagé dans plus de 12 millions de messages. Et là, on voit bien comment, d'un seul coup, ce MeToo, finalement, ça aurait pu démarrer beaucoup plus tôt aux États-Unis, toutes ces dénonciations et tout ça. Mais du fait que ce soit des personnes racisées qui dénoncent, ça n'est pas allé plus loin que Harlem, quoi. Et puis, il y a eu un autre mouvement très fort, c'est le 14 octobre 2017, la journaliste Sandra Müller qui lance sur Twitter un balance ton porc afin que la peur change de camp. C'est comme ça qu'elle l'avait énoncé. Et il est repris plus de 200 000 fois en quelques jours. Donc là, on voit bien qu'il y a une déferlante vraiment qui arrive. Tous les milieux commencent à dénoncer, à faire des hashtags. Donc il y a eu le hashtag balance ton média, balance théâtre, balance ton bar, balance... Il y a eu un MeToo inceste, MeToo politique, un MeToo gay, MeToo média... Dans certains pays, c'était le hashtag « moi aussi » au Québec. En France, c'était le hashtag « balance ton porc ». Enfin voilà, là, on sent qu'il y a un mouvement quasiment révolutionnaire. Ça fait penser vraiment à tout ce qui s'est passé pour les femmes depuis, on va dire, un siècle ou deux. Il y a eu de très grandes mobilisations qui ont donné lieu à des lois très fortes. La première mobilisation concernait le droit de vote. Et il y a eu un droit de vote des militantes féministes qui se sont mobilisées pour que les femmes votent. Et ça a été acté par une loi. Il y a eu une deuxième énorme mobilisation qui concernait l'avortement. Et il y a eu une loi qui a été faite.
1975, la loi Veil qui dépénalise l'avortement.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble.
Et là, on parle d'une troisième mobilisation qui concerne effectivement les violences, notamment faites aux femmes et aux enfants, mais pas seulement, qui concerne les VHSS, mais particulièrement les violences sexuelles. Et on attend la loi.
Faire un peu d'histoire populaire récente où les médias ont joué un grand rôle, et en me fiant à mes souvenirs, j'ai le sentiment d'un premier choc, traumatisme médiatique, avec en 2003 l'assassinat de Marie Trintignant par Bertrand Cantat. Et puis avant et pendant MeToo et Balance ton porc, une succession d'affaires et de noms, avec dans le désordre Woody Allen, Weinstein, PPDA, Duhamel, Polanski, jusqu'à récemment Depardieu et les autres, en passant par les courageuses prises de parole et positions d'Adèle Haenel en 2019, suivie de son départ des Césars en 2020.
Comment est-ce que c'est possible que ça arrive ?
4 novembre 2019, Adèle Haenel, Mediapart.
Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive ? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères, c'est ça qu'on doit regarder. Et ça veut pas dire, comment dire, je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer.
Pourquoi pas la justice ?
Déjà, je veux dire, j'ai pris une décision. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas plusieurs options, mais j'ai pris cette décision et je dois dire que, comme je vous disais, j'avais de toute façon envie d'agir. J'ai jamais vraiment envisagé la justice. J'avais pensé à des procédures en, justement internes au cinéma, genre à des situations où on pourrait convoquer des gens du cinéma et parler de cette histoire. Mais en fait, j'ai jamais pensé à la justice parce que, comment dire, il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont je pense qu'il faut parler. C'est qu'en fait, moi, je crois à la justice, mais il faut que la justice, elle parle de toute la société. Quand on voit à quel point les femmes sont méprisées, c'est pas moi qui l'apprends, ça. Hein. Je veux dire, dans le système judiciaire ou dans les situations, par exemple, de violences sexuelles ou de viol, c'est un viol sur 10 qui aboutit à une condamnation en justice. Ça veut dire quoi ? Des 9 autres ? Ça veut dire quoi de toutes ces vies, en fait ? La justice doit se remettre en question de ce point de vue-là. Moi, je crois à la justice et je crois que la justice peut se remettre en question, mais elle doit impérativement le faire si elle veut être à l'image de la société. C'est aussi pour ça que je passe par Mediapart. Je veux dire, il y a tellement de femmes qu'on envoie se faire broyer, soit dans les façons dont on va récupérer leurs plaintes, soit dans la façon dont on va disséquer leur vie et puis porter le regard sur elles. La faute, c'est elles. Alors comment elle s'est habillée ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a bu ? Mais arrêtons, quoi. Moi, c'est pour elles que je fais ça aujourd'hui, aussi, en grande partie. Parce que c'est pas qu'est-ce qu'elles ont fait, c'est genre, s'il vous plaît, il faut qu'on se regarde tous et qu'on considère que la justice, actuellement, n'est pas représentative de la société. Et ça, c'est un problème.
Un extrait donc de l'interview d'Adèle Haenel par Edwy Plenel sur Mediapart en 2019.
Là, je parle des femmes, je peux parler des enfants, je suis à l'intersection des deux. Donc, Mais je veux dire, c'est pour ça qu'il faut questionner ça. Ça veut pas dire qu'il faut les censurer, mais il faut le faire. Parce que c'est des façons qu'après, les agresseurs peuvent se raconter toute une histoire romantique au sujet d'un truc qui n'est pas du romantisme, qui est de l'oppression, qui broie la vie de tellement de gens, tellement de femmes. Et comme le monde a fonctionné comme ça de manière, je veux dire, sans problème, avec le silence des femmes, depuis tellement de temps.
Et l'aveuglement des hommes.
On considère qu'on a inventé avec MeToo la violence qui était faite aux femmes. Mais non, c'est juste qu'on a tellement encaissé, en fait. On a tellement encaissé. Et c'est possible de faire autrement, société. C'est possible. C'est bien pour tout le monde. C'est bien en premier lieu pour les victimes. Mais c'est bien pour même les bourreaux, en fait, qui se regardent en face. C'est ça, être humain. C'est pas écraser et essayer d'obtenir du pouvoir. C'est se remettre en question et accepter ça, et accepter le côté multidimensionnel de ce que c'est qu'un être humain. Et comme ça, on fait une belle société. Comme ça. Si on est là à vouloir maintenir en place des ordres qui sont, comment dire, stérilisants pour la pensée, pour le cœur, pour le rapport à autrui. Mais on construit le monde qui va à sa perte, quoi.
Et j'ai l'impression, sûrement erronée, que sur ces sujets, la société a peut-être changé après les confinements du Covid-19. Il s'est passé des tas de choses pendant cet enfermement général. Des gens ont dû avoir du temps pour réfléchir et peut-être avaient changé au déconfinement.
Alors pendant le confinement, en fait, on a noté une augmentation des violences, notamment faites aux femmes et sur les enfants, puisque évidemment, en étant confiné, en n'ayant pas le droit de sortir, en étant enfermé dans des appartements, il y a eu une explosion des violences. Après, je sais pas si on peut dire qu'en sortant du confinement, les gens ont une plus grande conscience des violences sexuelles et sexistes. C'est-à-dire que quand même, il y a eu des choses qui ont marqué. Il y a eu le Grenelle sur les violences. Il y a eu le livre de Camille Kouchner avec, à la suite de ça, la création de la Civise. Édouard Durand, juge pour enfants, qui lutte vraiment, qui est un grand militant contre la violence faite sur les enfants. Cette Civise, elle a mis en évidence des chiffres effarants. 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an. C'est énorme. Avant la Civise, il y a eu la création de la CIAS, la commission indépendante pour les agressions sexuelles commises dans l'Église. Il y a eu, en 2019, la création de la CIAS, qui était dirigée par Jean-Marc Sauvé, qui a remis un rapport qui s'appelle le rapport Sauvé. Cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église établit des faits sur les abus sexuels sur mineurs et les personnes vulnérables dans l'Église catholique en France depuis les années 50. L'estimation est vertigineuse, puisqu'on estime qu'il y a au moins 216 000 victimes. L'estimation qui est faite, c'est qu'il y a au moins 216 000 victimes commises par environ 2,5% de prêtres et de religieux. La CIAS décrit ce phénomène comme un phénomène massif et systémique. Ça aussi, ça a été un grand choc, que l'Église, à un moment donné, soit pointée du doigt comme étant un endroit où des violences sexuelles soient commises de façon systémique. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2021, la création de la Civise, enfin tout ça, ça a quand même mis en lumière tout ce qui se passe dans la société concernant les violences sexuelles.
Comme le dit Sylvie, c'est systémique, donc c'est partout. Donc ça va être là, le travail, la rue, les transports en commun, le milieu festif, la famille, l'école, l'enseignement supérieur, le sport, les réseaux sociaux, l'hôpital. Il y a un reportage qui est sorti qui s'appelle « Les blouses passent si blanches », je crois, sur M6, qui relate des violences sexuelles et sexistes à l'hôpital. Donc voilà, effectivement, on peut s'imaginer, en sachant que ça traverse tous les milieux qu'on traverse dans la vie, que oui, les chiffres sont énormes. C'est ça qui est vertigineux, c'est ça qui fait peur, et c'est ça aussi qui est dur à entendre. C'est dur à entendre que c'est son voisin, son médecin, ou sa médecin, hein, j'en reparle là pour le coup. C'est dur d'entendre qu'une femme gynécologue fait des touchers vaginaux sans consentement de sa patiente en disant que c'est pour faire des reviviscences par rapport au viol qu'elle a subi enfant lors de l'examen médico-légal. Ça, c'est à ventre ouvert qui a dénoncé ça sur les réseaux sociaux, qui a dénoncé la médecin qui l'avait reçue et qui l'a traitée de la sorte. Donc voilà, il y a aussi des femmes violentes, des femmes qui ne respectent pas le consentement des autres, des femmes expertes, hein, comme on pourrait dire, ça touche vraiment tout le monde, tout le temps. C'est ça aussi qui fait un peu peur. Est-ce qu'on a peur d'aller chez le médecin, à l'hôpital, dans la rue, dans les transports en commun, à l'école, au travail ?
Puisque c'est systémique, c'est partout. On le rappelle, hein, on produit cette série autour de notre festival Chéri au quart de tour. Un milieu qui est aussi apparu dans ces conversations, c'est aussi le concert de rock ou de musiques actuelles. Il y a eu un article de Mediapart sur le sujet qui a fait du bruit dans Landerneau. Et puis même localement, il y a des histoires de musiciens qui ont des comportements pas ok. École, sport, cinéma, et puis dans notre entourage, dans nos milieux festifs, dans nos concerts, voire même tout simplement autour de nous. Ça concerne aussi nos potes.
Oui, tu as tout à fait raison. Effectivement, le milieu festif, artistique est lui aussi touché. Nous qui faisons énormément de recueils de témoignages en milieu festif avec notre dispositif Free Payette, hein, on se rend compte à quel point ça touche tout le monde. La difficulté qu'on rencontre, hein, quand on fait du recueil de témoignages, hein, et quand on veut faire des accompagnements ensuite des personnes qui viennent nous voir, c'est quand ça concerne des amis. Là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, très souvent, les personnes n'osent pas porter plainte, parce qu'elles ont une pression sociale, une pression du groupe. Mais c'est comme les enfants dans les familles qui disent une fois une chose, 9 enfants sur 10 a révélé des violences dans la famille, 9 fois sur 10, on lui a demandé de ne pas en parler, pour ne pas faire exploser la famille. Et il se passe exactement la même chose avec les amis, avec les groupes de rock, les DJ, avec tout ça. Donc c'est vrai que c'est difficile de prendre en charge ces victimes-là pour cette raison-là. Parce que quand c'est un pote ou quand c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est très difficile de prendre la parole et de dénoncer. Les personnes ne sont pas soutenues.
On a bien mérité une première pause musicale, une sélection de Sylvie et Mélo des Établis.
Donc oui, bah là, tout de suite avec Sylvie, on pense à Angèle, qui est une chanteuse franco-belge qui a sorti en 2018 un « Balance ton quoi ». C'est une chanson assez festive et joyeuse, mais « quoi », ça veut dire que ça peut être partout, tout le temps, tout le monde, donc on a tout de suite pensé à elle.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal, 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal, j'ai vu que le rap est à la mode, et qu'il mange mieux quand il est sale, bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi, même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris, balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en Moi je passerai pas à la radio, no. Parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi-mots pour une fille. suis belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire un mmh. Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire un mmh. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, aller te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter.
Un quoi balancer, nous disait Sylvie pendant cette chanson d'Angèle. Balance ton quoi. On est toujours avec les établis qui assurent notamment ce génial dispositif Free Paillettes, mais pas que, on en a parlé aux précédents épisodes. Et aujourd'hui, on revient sur cette question, je disais porte ouverte, mais après tout, il y a des portes ouvertes à défoncer. Question initiale, est-il exact de dire que l'écrasante majorité des violences sexuelles et sexistes sont commises par des hommes hétérocis? Vous avez commencé à répondre, les établis. Donc la réponse est oui, hein. Je préciserai peut-être ma question, 90-95% et même plus, enfin disent certaines statistiques, de violences sont commises par des personnes masculines, cisgenres, accessoirement hétéronormées, ce qui permet aussi d'inclure les adolescents, parce qu'il n'y a pas que chez les adultes qu'il y a de la violence.
Oui, le gouvernement avait sorti une batterie statistique expliquant qu'une femme sur 6 âgée de 18 à 74 ans déclare avoir subi au moins une fois depuis l'âge de 15 ans, une violence sexuelle. Donc, c'est viol, tentative de viol ou agression sexuelle de la part d'un non-partenaire, mais il y a aussi beaucoup de violences dans les couples, dans les jeunes couples. Même si les garçons sont concernés aussi dans les violences, dans les relations intimes en dessous de 18 ans, il semblerait que 8 victimes sur 10 soient des filles. Il y a beaucoup d'immaturité parfois dans les relations amoureuses chez les jeunes, et il y a un programme probant suisse qui s'appelle « Sortir ensemble et se respecter », auquel on va se former en septembre avec l'université de Tours, qui consiste à faire des séances en fait avec les jeunes dans les lycées pour aborder tous ces sujets-là, des relations intimes, du consentement, ce que c'est une violence aussi finalement, parce que on minimise, on banalise. Alors attends, c'est minimiser, banaliser, c'est-à-dire qu'une claque parfois, c'est pas vécu par ces jeunes comme une violence, même par des adultes, hein. Et puis il y a aussi une chose qui est dans les mains des jeunes très tôt, c'est le porno. Le porno, il est pas à diaboliser, hein. Mais il y a du porno qui n'est pas éthique, du porno qui est violent, du porno qui est non consenti par les personnes filmées, par exemple, et qui est très très facilement accessible sur les réseaux sociaux, Google et tout, par les jeunes. Dès que tu as un téléphone dans les mains à 8 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, 12 ans, 14 ans et plus, tu peux tomber sur des vidéos over-violentes avec des pratiques over-violentes, des scènes de viol qui en fait sont titrées pas comme des scènes de viol, évidemment. Donc c'est romantisé, enfin romantisé, façon de parler, c'est mettre des mots pour cacher la réalité de la vidéo qu'ils vont regarder. Donc il y a aussi beaucoup de vidéos porno qui mettent en scène l'inceste. Ça, c'est aussi problématique dans le sens où d'un seul coup, ça paraît sexy.
Je prends l'exemple d'une personne qui aurait subi ce genre de violence plus jeune, tombe sur une vidéo comme ça à 14 ans, se dit « bon bah, finalement ce que j'ai vécu, c'est peut-être pas un problème ». Et puis c'est après, peut-être plus tard, en se rendant compte, en parlant avec ses potes, dans les groupes de pères, que les gens se rendent compte que « ah bah non, c'est pas ok ». Donc voilà, l'industrie porno a fait beaucoup de mal aussi dans la conscience qu'on a de son propre corps, de ses propres limites, dans le fait qu'on peut dire non à des pratiques, mais aussi d'entendre le non-consentement de l'autre. C'est aussi une industrie qui est en cours d'études d'évaluation et de législation, ce qu'il faut un peu réglementer l'accès, et puis ce qu'il y a comme contenu dans ces vidéos-là. Au final, on se rend compte que l'industrie porno, comme le reste, de tout ce qu'on a cité depuis le début de l'émission, ça vient renforcer le rapport de domination dans les stéréotypes de genre. C'est-à-dire qu'il y aurait un genre qui domine l'autre, c'est-à-dire le genre masculin sur le genre féminin. Ce serait souvent comme ça dans les vidéos, même s'il y a plein d'autres catégories qu'on ne va pas lister. Et puis qu'il y a du porno éthique aussi, ça existe. Il y a du porno éthique, il y a du porno queer, voilà. Il faut le savoir quand même.
Quelque chose que tu as soulevé, Mélo, qui fait écho à des conversations intimes. Donc on parlait de rapports sexuels non consentis, donc de viol. Ça existe aussi dans le cadre conjugal, même si les gens ne sont pas mariés. J'ai des potes qui ont réalisé qu'elles ont été pendant des années victimes de viol de la part de leurs compagnons, sous l'effet de sidération. Et puis aussi ce truc, il y a encore pas si longtemps que ça, la loi française parlait de devoir conjugal. Voilà, des rapports sexuels non consentis, ça arrive aussi dans le couple. Comme si le viol ne pouvait pas avoir lieu entre époux ou entre conjoints ou entre gens qui relationnent.
Ouais, t'as complètement raison, le viol conjugal, on commence à en entendre parler parce que pendant très longtemps, c'était tabou. C'était tabou et c'était pas vécu comme un viol ou comme une agression sexuelle, hein, des baisers forcés, des étreintes forcées, enfin ça, il y a le viol, mais il y a aussi tout le reste, hein, toutes les étreintes forcées, tous les baisers forcés, tous les câlins forcés. On en est encore là aujourd'hui, hein, nous quand on intervient auprès des étudiants à la fac, hein, quand on pose la question, est-ce que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes, la majorité répond oui. On est obligé de déconstruire hein, ce vieux mythe hein, qui parlerait de besoins sexuels. Hein. On a du désir, hein, on est des humains, on n'a pas de besoins sexuels. Les animaux ont peut-être des besoins sexuels, hein, dans la reproduction par exemple. Quand on parle de relations amoureuses hein, ou de couple, enfin, c'est pas du besoin, c'est du désir. Donc effectivement, on déconstruit nous beaucoup dans nos interventions, notamment dans les collèges, lycées et facs, cette idée, ce mythe, hein, comme quoi l'homme aurait des besoins sexuels, et donc c'est normal que la femme, parce que c'est assez genré quand même cette histoire de besoins sexuels, c'est normal que la femme assouvisse les besoins de son homme, on nous dit des choses comme ça, hein, de son homme parce qu'elle l'aime, et parce que voilà, sinon elle va le perdre. Elle va perdre l'homme qui ira voir ailleurs si elle n'assouvit pas ses besoins sexuels. Donc c'est très stéréotypé, c'est un mythe qui renforce encore cette histoire de domination hein, d'un genre sur un autre. C'est difficile à déconstruire. Là, on commence à avoir des chiffres qui concernent les viols conjugaux. Il y a plus d'un tiers des Françaises qui ont été interrogées, qui ont déjà vécu une situation de non-consentement. 33% des femmes interrogées ont eu un rapport sexuel suite à l'insistance de leur partenaire, alors qu'elles n'en avaient pas envie. 12% ont déjà eu un rapport sexuel non protégé devant l'insistance de leur partenaire. 18% pour les 25-34 ans, ça veut dire que dans la jeunesse, quand même, il y a tout un travail aussi à faire. Ça ne concerne pas que les vieux, on va dire. Les jeunes sont extrêmement concernés par ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces rapports non consentis et qui sont tolérés par notamment des femmes? Ça veut dire que ce sont des viols. Porter plainte pour viol contre son conjoint, c'est extrêmement difficile. C'est aussi pour ça que pour l'instant, on commence à avoir des chiffres, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de plaintes, en fait, qui sont déjà... Quand il y a un dépôt de plainte, la plupart du temps, il y a des classements sans suite parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Donc les viols dans les couples, alors là, c'est encore plus difficile à qualifier, en fait.
Alors les IST, infections sexuellement transmissibles, ne sont pas le cœur de notre sujet, mais tu l'abordais. Et de toute façon, comme disent les copains profs d'histoire géo avec lesquels on anime cette émission régulièrement, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Pour le dire plus lugubrement, dès que la radio annonce qu'une avancée a été faite dans la recherche contre le sida, c'est une véritable catastrophe. Les personnes militantes qui luttent depuis des décennies maintenant contre le VIH, entre autres choses, hein, parce qu'il n'y a pas que le VIH, il y a d'autres infections sexuellement transmissibles. Dès que la radio annonce un truc un peu fanfaronnant que tel labo américain a fait une recherche dans la lutte contre le sida, pouf, faut tout recommencer. Tiens, on a entendu à France Inter qu'il y a eu une avancée, donc on laisse tomber les capotes, bien sûr. C'est tout le temps, en fait. Faut jamais baisser les bras, quelle que soit la lutte.
C'est pas du tout éloigné du sujet par rapport au VIH et toutes les IST, les MST, puisqu'il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de méconnaissance aussi, nous on s'en aperçoit, hein, par rapport notamment au VIH. Très peu de personnes connaissent la PrEP, qui est un traitement qu'on peut prendre pour être immunisé, hein, entre guillemets. Enfin, c'est une... À Tours, il y a quand même des structures qui s'occupent de faire de la prévention, de l'information et de la prise en charge, des consultations et de la médicamentation autour du VIH et autres, hépatite, etc., qui vont être le CEGID, les centres de santé sexuelle, le planning familial, le CoRéVi, CoRéVi c'est Corée VIH, voilà, enfin, le CRCDC, je ne vais pas dire tous les acronymes, donc ça c'est des mots-clés que vous pouvez taper dans Google si vous avez envie de vous faire dépister aussi, parce que toujours, ça paraît inédit de se faire dépister. Or, c'est OK, ça peut être gratuit, pour les mineurs notamment. On parle aussi d'avortement. Hein. Il y a beaucoup... Enfin, voilà, les centres de santé sexuelle font aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de pédagogie. Et je reprends ton terme, il faut vraiment faire beaucoup de pédagogie, des fois repartir de zéro. Parce qu'il y a beaucoup de désinformation, de récupération politique et religieuse qui font de la désinformation. Et puis de la méconnaissance tout court. Voilà. Par exemple, par rapport à l'avortement, on voit bien dans le monde à quel point les droits à l'avortement reculent. C'est quand même une lutte, c'est quand même une révolution à l'époque, en France. Si on va par là, c'est aussi de la lutte pour les droits et l'accès aux droits. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'avortement avec la loi 75 de Veil, on voit bien aujourd'hui dans le monde à quel point ça régresse, à quel point c'est encore en danger ces droits-là, qui sont des droits fondamentaux, à donner la vie ou pas, à avoir un enfant ou pas, à désirer un enfant ou pas. Tout ça rejoint la lutte pour les droits et l'accès aux droits, rejoint la lutte contre les VHSS, puisque c'est encore un rapport de domination sur le corps de l'autre. Par exemple, aujourd'hui, au moment où on se parle, en 2024, il y a 55 féminicides depuis le début de l'année. Donc ce sont des femmes tuées par leur conjoint, ex-conjoint ou un membre de leur famille homme, et 20 infanticides. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a aussi des enfants orphelins depuis le début de l'année, de 55 femmes. Pas forcément, elles n'ont pas toutes des enfants, mais quand même. Voilà, donc toute cette lutte-là d'information autour de la pédagogie sur toute la santé sexuelle, ça inclut aussi les VHSS.
Ce qu'on constate, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation, mais il y a aussi beaucoup d'informations, il y a beaucoup de prévention qui est faite. Il y a aussi le droit qui évolue. Les femmes ont plus de droits aujourd'hui. Ce qui est dramatique, c'est que plus il y a d'accès aux droits, plus en face, il y a des mouvements réactionnaires. Il y a un constat qui a été fait là récemment, c'est que les féminicides augmentent. En gros, si les femmes courbent les chines, le taux de féminicide diminue. Si les femmes se révoltent, militent, prennent la parole, le taux de féminicide augmente. Comment on fait ? Alors la lutte intersectionnelle, c'est une réponse puisque ça concerne effectivement tous les droits pour les personnes racisées, pour les TDS, travailleurs et travailleuses du sexe. On n'a pas parlé des personnes porteuses de handicap, ce sont des personnes vulnérables. Concernant l'inceste et les violences sexuelles faites sur les enfants, ces personnes-là sont 3 fois plus touchées. On n'en parle pas beaucoup. Évidemment, pour les personnes porteuses de handicap, que ce soit un handicap cognitif, un handicap physique, hein, c'est beaucoup plus difficile de dénoncer les violences. Donc il faut militer tous ensemble, en fait. Il ne faut pas être que féministe. Il faut que le féminisme soit intersectionnel, parce que ça concerne tous les droits de la société.
Intersectionnalité, notion désignant la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou discrimination dans une société. Exemple, une personne appartenant à une minorité ethnique et issue d'un milieu pauvre pourrait à la fois être victime de racisme et de mépris de classe. concernant l'intersectionnalité des luttes. Je vous fais l'aveu qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, je pensais qu'il y avait une hiérarchie dans les luttes. Et en gros, j'étais un peu sur un truc, bon, sortie de la lutte des classes, point de salut, des LGBTQIA+, on verra ça quand on aura gagné la révolution. Ce qui est stupide, et j'en suis revenu, je pense pas qu'il y ait de hiérarchie des luttes, je pense qu'il faut tout affronter de front et qu'il n'y a pas de lutte minoritaire. Parce qu'effectivement, si on attend de gagner la révolution...
Effectivement, pendant longtemps, on pensait qu'il y avait une hiérarchie, et surtout, ce qui a été dit par les féministes blanches américaines aux femmes racisées, latino-américaines et afro-américaines, c'est « Attendez, nous on y va, on sera entendus parce qu'on est des femmes blanches, et par ruissellement, vous-même, vous bénéficierez des droits acquis. » Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de ruissellement du tout, puisque ça maintenait un système de domination, alors là, pas de genre, mais de couleur de peau, les femmes blanches, les femmes racisées. Et Audre Lorde, hein, qui est une féministe afro-américaine, philosophe, a écrit de très beaux textes, hein, notamment dans Sister Outsider. Elle parle de tout ça, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec tous les textes qui ont été produits, avec toutes ces personnes racisées qui ont pris la parole, qui ont été de grandes militantes et de grandes intellectuelles, on ne peut pas dire « Ouais, le féminisme, il ne peut pas être intersectionnel. » Ce n'est pas possible. C'est pas possible.
Du coup, Sylvie, ça me fait penser à un spectacle auquel nous avons assisté, la tournée Trouble, Béatrice Dalle, Virginie Despentes, Cazé, avec quatre musiciens. Et il y a eu notamment ce texte génial, mais j'entendais aussi des dents qui grinçaient, des dents d'hommes et de femmes blancs et blanches. Ce texte lu par Cazé, qui disait en gros que le féminisme, ça consiste pas à devenir PDG à la place d'un mec. Puis que se dire féministe blanche, mais s'offrir les domestiques souvent racisés qui font le ménage ou élèvent les enfants. Oui, bon, des fois, hein, quand on est de gauche ou sympa, on emmène quand même la femme de ménage en vacances parce qu'elle fait partie de la famille. C'est pas féministe du tout.
Ce que tu dis là, ça me fait penser à un autre texte d'Audre Lorde. Texte qu'elle a intitulé « Les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître ». Effectivement, si on veut lutter contre... un système de domination, il faut sortir des modèles que les maîtres, les dominants, ont voulu nous imposer. Ce texte, il est assez intéressant. C'est un texte qu'elle avait fait à New York en 1979, lors d'une conférence autour du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Je cite beaucoup Audre Lorde, hein, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans tout le travail que je fais, la pensée intersectionnelle. Aujourd'hui, cette pensée intersectionnelle, elle est très importante. Il y a beaucoup de racisme ambiant, il y a beaucoup de transphobie, il y a beaucoup de lutte des classes encore. Enfin, donc, pour moi, c'est un apport très riche, hein, de relire ces textes-là.
Et à ce sujet, il n'y a pas longtemps, avec Sylvie, on a participé à une journée d'études en fait, autour du genre, la 6e rencontre de la recherche avec l'ITS de Tours et la Croix-Rouge française, avec le P3R Centre, qui est le pôle ressources recherche régionale. Et dans cette journée, on a eu l'extrême chance d'assister à la conférence de Bahar Azadi, qui est chercheuse à la Cité du Genre de Paris, et qui a fait vraiment une intervention sur le genre, d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on parle de genre aujourd'hui, pourquoi la lutte intersectionnelle est nécessaire et à qui dessert le patriarcat. Bah, le patriarcat, il dessert tout le monde, y compris aux hommes, qui sont enfermés dans des stéréotypes de genre auxquels ils doivent répondre. Et on le voit bien, nous, dans nos interventions auprès des collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes et autres, même des petits-enfants, des fois, hein, combien encore les stéréotypes de genre sont ancrés. Donc, tant que tout ça restera à la racine de l'éducatif et du pédagogique français, on s'en sortira pas des VHSS. Ou alors, il faut vraiment tout refondre. Et là, on a du boulot.
Par rapport à ce que tu viens de dire, Mélo, c'est vrai que les stéréotypes de genre, c'est un empêchement. C'est un empêchement pour beaucoup de choses. C'est un empêchement dans les choix de métier, par exemple, un homme qui veut être sage-femme va être regardé de travers, va être soupçonné d'être ou un pédophile ou une pédale. Nous, on entend ça vraiment dans nos interventions qu'on fait auprès des lycéens et des collégiens. Une fille qui va choisir un métier du bâtiment, on va lui faire comprendre que, bon, non, ça, c'est des métiers d'hommes. Donc, elle serait pas lesbienne par hasard, une camionneuse, quoi, en gros. Enfin, tous ces clichés sont renforcés, effectivement, par les stéréotypes de genre et le patriarcat. ça empêche aussi d'autres choses. Ça empêche au niveau des études, ça empêche au niveau des émotions. Par exemple, nous, sur le dispositif Ripayet, on a des hommes qui viennent nous voir et qui, pour la première fois, font l'aveu ou... Je ne sais pas si c'est un aveu peut-être à eux-mêmes, mais je ne sais même pas si on peut parler d'aveu. Nous disent qu'ils ont été victimes de violences sexuelles, de viols, pendant l'enfance ou l'adolescence, et qu'ils n'ont jamais pu en parler parce qu'ils ont honte. Pourquoi ils ont honte ? Ils ont honte parce qu'ils sont des hommes et qu'ils auraient dû pouvoir se défendre. Donc ils ne l'ont jamais dit. Donc effectivement, tous ces stéréotypes de genre que nous impose ce modèle patriarcal est une calamité pour tout le monde. C'est une calamité, ça invisibilise aussi notamment les hommes qui subissent des violences dans les couples. Là récemment, sur encore une fois le dispositif Ripayet, un homme est venu me voir parce qu'il était victime de violences conjugales par sa compagne et il a mis très longtemps à pouvoir en parler. Autour de lui, il n'a pas été entendu, il n'a pas été soutenu. On lui a dit « ouais, non mais c'est bon, t'as qu'à te défendre », enfin, des choses comme ça, quoi. Et là, enfin, il a pu aller porter plainte, trouver un avocat. Je ne pouvais plus l'arrêter de parler, il avait tellement envie de le dire, quoi. De montrer les photos, de dire, de parler, d'être reconnu comme une victime.
Même si ça existe, et il faut le reconnaître, ça reste malgré tout quand même quasiment une anomalie statistique. 90-95% des gens violents sont des personnes masculines hétérocis. Mais ça existe. Je voulais un peu désamorcer ce truc-là, ouvrir les guillemets. Ouais, mais il y a aussi des meufs qui font de la merde.
Bah du coup, pour reprendre ton terme, anomalie statistique, nous on n'est pas tout à fait d'accord, dans le sens où ça voudrait dire que c'est pas normal. Or, il y a des femmes qui font subir de l'inceste à leurs enfants, ou alors dans leur famille, il y a des femmes qui sont violentes avec leurs conjoints, conjointes, partenaires. Il y a des femmes dans les, enfin, il y a des violences dans les couples lesbiens. Il y a des femmes trans violentes. Il y a des femmes, voilà, toutes les femmes peuvent être concernées par les violences. En tout cas, il y a un chiffre qui est intéressant. Par exemple, en 2022, sur les 23 femmes ayant tué leur conjoint, 9 avaient déjà subi des violences de la part de ce conjoint. Donc le féminicide, il vient en conséquence. La violence, elle vient en réaction.
C'est ce qu'a montré l'affaire Jacqueline Sauvage.
Par exemple, Jacqueline Sauvage, qui finit par être graciée par le président de la République. C'est une parmi tant d'autres, et les autres ne sont pas graciées et peuvent être, enfin, sont condamnées pour meurtre. Tous ces chiffres-là, en fait, ils sont... on ne peut pas dire que c'est des anomalies. Par contre, l'écrasante majorité des violences et harcèlements sexistes et sexuels sont exercés par des hommes. Point. Ça, c'est vrai.
On va s'octroyer une nouvelle respiration musicale choisie par les établis. Joe Vedin et Jean Felzine chantent « Les hommes ne sont plus des hommes », entre parenthèses.
Les hommes ne sont plus des hommes, les hommes ne sont plus des hommes, les hommes ne sont plus des hommes, les hommes ne sont plus des hommes. Les hommes ne sont plus des hommes aujourd'hui. Ils ne vont jamais picoler. Ils ne savent pas bricoler. Ils me demandent mon avis. Me le demandent même au lit. Les hommes ne sont plus des hommes. 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 Les hommes ne sont plus des hommes aujourd'hui. Ils ne vont jamais à l'usine. Ils me font très bien la cuisine. Ils sont des produits de beauté. Mais ne savent pas se raser. Les hommes ne sont plus des hommes, les hommes ne sont plus des hommes, les hommes ne sont plus des hommes, les hommes ne sont plus des hommes. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Et moi je serre les genoux. Que l'homme vienne cacher le fort de nous. Les hommes aujourd'hui, ils pleurent devant les enfants. Ils te volent leurs sentiments. Ils me traitent comme un bijou. Ceux de famille, ils sont où? Les hommes ne sont plus des hommes.
Les hommes ne sont plus des hommes. Les hommes ne sont plus des hommes. Les hommes ne sont plus des hommes.
Les hommes ne sont plus des hommes. Aujourd'hui, ils ne vont jamais picoler. Ils ne savent pas bricoler. Ils me demandent mon avis. Elle le demande même au lit. Les hommes ne sont plus des hommes. 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 Aujourd'hui. 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 Et moi je serre les genoux. Qu'un homme vienne gâcher une faute de l'eau. Les hommes ne sont plus des hommes. Les hommes ne sont plus des hommes. Les hommes ne sont plus des hommes. Les hommes ne sont plus des hommes.
Jovedine et Jean Felzine, les hommes ne sont plus des hommes, entre parenthèses. Dernière ligne droite dans cet échange avec Sylvie et Mélo, l'asso s'appelle Les Établis, notamment connu grâce à leur dispositif Free Paillettes, mais pas que, hein, y a de la formation, etc., etc. Avec cet aspect auquel on ne pense pas forcément, mais après tout on vit dans un monde capitaliste où tout se chiffre, quel est le coût de toutes ces violences, harcèlement, sexuel et sexiste?
Alors je vais parler surtout du coup pour la société de l'inceste. Hein. C'est Édouard Durand qui, dans son dernier rapport en décembre 2023, a fait estimer le coût pour la société des violences incestuelles. Il a évalué ce coût à 10 milliards hein, par an. Édouard Durand, quand il a remis son dernier rapport de la Civise en novembre 2023, a évalué le coût de l'inceste à 10 milliards d'euros pour la société. Dans le détail, ça donne quoi? Ça donne qu'il y a des chiffres quand même assez énormes. Il y aurait 3 milliards de dépenses engagées en réponse immédiate et ponctuelle aux victimes. Pour l'accompagnement, les services de police, la gendarmerie, la justice, la prise en charge médicale, ces 3 milliards, ça représente la prise en charge immédiate. Mais le plus gros poste de ces 10 milliards, il est lié aux conséquences à long terme sur la santé des victimes. On sait que les violences sexuelles créent des dommages sur la santé et mentale et physique sur les victimes. L'évaluation qu'il en a fait, c'est que 6,7 milliards par an sont dépensés pour des dépenses induites par le psychotraumatisme et les richesses non créées. Quand on parle de richesses non créées, ça veut dire que toutes ces personnes sont dans l'incapacité de faire des études, de travailler et donc de créer de la richesse. Parmi ces 6,7 milliards, il y a 2 milliards qui sont dépensés pour les troubles mentaux, 1 milliard pour des consultations médicales et 2,6 milliards pour les dommages liés à des conduites à risque. Donc les conduites à risque, effectivement, c'est très fréquent dans les conséquences des violences sexuelles, notamment en fait sur les enfants. Les conduites à risque, ça va être la prise de toxiques, la prise d'alcool, et donc qui génère ensuite effectivement des prises en charge médicales. Ça va être des troubles alimentaires, hein, ça va être une conduite, la vitesse, hein, par exemple, en moto, en voiture. Enfin voilà, tout ça, ce sont des conduites à risque, c'est mettre sa vie en danger. Donc si on veut limiter toutes ces dépenses, il faut absolument prendre en charge très tôt, le plus rapidement possible, les victimes de violences sexuelles et sexistes. Muriel Salmona, qui est une spécialiste du psychotrauma, l'explique très bien et elle dit « Si la victime est prise en charge dans les 6 mois, il y a très peu de répercussions ensuite sur la santé mentale et la santé physique des personnes. Il faut prendre en charge aussi les auteurs de violences sexuelles, les auteurs et les autrices, hein, bien évidemment, pour éviter la récidive. Si on prend en charge très rapidement les victimes et les auteurs de violences sexuelles et sexistes, on divise par 3 le coût pour la société.
Donc si je vous entends bien, les établis, des structures et des assos comme les vôtres, en fait, permettent à la collectivité d'économiser des sous.
On ne peut pas avoir cette prétention tellement il est énorme, mais, non, mais c'est vrai que les dispositifs de prévention, la prévention d'une manière générale, il y a plusieurs types de prévention, primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Toutes ces types de prévention-là, qui vont de l'avant-drame à l'après-drame, réduisent les coûts, c'est sûr. Nous, on propose des dispositifs de prévention parce qu'on sait qu'il faut aller repérer les gens vulnérables, par exemple, qui n'ont pas encore subi des violences, pourquoi pas. Mais si on ne les repère pas et si on ne les accompagne pas, potentiellement, ils subiront des violences. Et comme on sait que cette société fait que les violences sont exercées assez facilement sur les personnes vulnérables, bon, ben voilà, l'équation, elle est simple. A priori. Après, voilà, les moyens mis dans la prévention, les coupes budgétaires faites aux assos, elles sont réelles aussi. Donc on ne peut pas et avoir un Grenelle contre les violences, une Civise, une CIAS et tout ça, et ne pas mettre les moyens pour que les gens fassent de la prévention, se forment à ces métiers d'accompagnement, d'écoute et de prise en charge. Prise en charge et de repérage.
Sylvie Mello, les établis. Bon, eh ben, c'était pas hyper fun tout ça, mais nécessaire. Au demeurant, comme je dis toujours à la fin de cette émission, hein, ce n'est qu'un combat, continuons le début.
Merci JB pour ces émissions, c'était vraiment génial de pouvoir parler de tout ça. Il y a toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont envie de parler de ces sujets qui ne sont pas simples. N'hésitez pas à nous contacter sur Instagram Fripayette. Sur notre mail, lesetablisies@gmail.com. Et on pense à vous, et on vous soutient, et on vous envoie du love. Et à bientôt.
Je te remercie pour les heures passées ensemble, à discuter, à réfléchir ensemble aussi à tous ces sujets qui sont lourds, mais qui sont nécessaires. On vous envoie du love. Je répète ce qu'a dit Sylvie, parce que la répétition, c'est bien. Non. Et on vous envoie du love avec la... Attends. Et on vous envoie du love.
Parce que la répétition, c'est l'art de la pédagogie.
La pédagogie, c'est l'art de la répétition, donc même dans le love. C'est ça, c'est que je me suis trompée au début. Merci beaucoup et à bientôt.
Et voilà les amis, on se quitte ici sur la fin de ce 3e volet de notre série contre les VHSS, à réécouter sur notre site. Polymix et la voix off.com. Avant qu'on se retrouve au prochain épisode avec une autre asso, que Sylvie et Mélo connaissent bien puisqu'elles y ont participé avant de monter leur propre asso, les établis, vous avez donc pour la prochaine fois rendez-vous avec des membres de l'association Stop Harcèlement de Rue. D'ici là, portez-vous bien, et puis vous le savez, hein, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.